Chapitre 20. Le pape Urbain XVI. Envoie ton esprit et ils seront créés, tous. Tu renouvelleras la mémoire de la terre et la face de tous les mondes de l'Empire de Dieu. Le pape Urbain XVI. Prions. Ô Dieu, tu as instruit les cœurs des fidèles à la lumière de ton Esprit Saint. Fais que par ce même Esprit Saint nous puissions toujours être vraiment sages et nous réjouir dans son réconfort. Par le Christ, notre Seigneur. Tous. Amen. Le pape Urbain XVI bénit les insignes des chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le pape Urbain XVI. Notre secours réside dans le nom du Seigneur. Tous, qui a fait le ciel et tous les mondes. Le pape Urbain XVI. Le Seigneur soit avec vous, tous, et avec votre esprit. Le pape Urbain XVI. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, écoute nos prières et daigne, par le pouvoir de ta majesté, bénir les insignes de l'office. Protège tes serviteurs qui désirent les porter, qu'ils soient forts pour garder les droits de l'Église, et rapide pour défendre et étendre la foi chrétienne. Par le Christ, notre Seigneur. Tous. Amen. Le pape Urbain XVI asperge les emblèmes d'eau bénite. Le maître de cérémonie, le cardinal Lourdus Amy, lit l'ordonnance qui désigne de nouveaux chevaliers et promeut quelques anciens un grade supérieur. Chaque membre se lève lorsque son nom est mentionné et reste debout. Il y a 1208 chevaliers dans la basilique. Le cardinal Lourdus Amy les énumère selon leur rang, du plus bas au plus élevé, les chevaliers d'abord, puis les chevaliers prêtres. Lorsqu'il a terminé sa lecture, les chevaliers qui vont être investis s'agenouillent. Tous les autres sont assis. Le pape Urbain XVI questionne les chevaliers. Que demandez-vous ? Les chevaliers répondent « Je demande à être investi chevalier du Saint-Sépulcre. » Le pape Urbain XVI « Aujourd'hui, être chevalier du Saint-Sépulcre, c'est s'engager dans la bataille pour le royaume du Christ et pour l'extension de l'Église et entreprendre des œuvres de charité avec le même esprit de foi et d'amour qui vous pousse à donner votre vie dans la bataille. Êtes-vous prêt à suivre cet idéal durant toute votre vie ? » Les chevaliers répondent « Oui. » Le pape Urbain XVI. « Je vous rappelle que si tous les hommes et toutes les femmes se sentent honorés de pratiquer la vertu, combien plus un soldat du Christ doit-il se glorifier d'être un chevalier de Jésus-Christ et utiliser tous les moyens possibles pour montrer, par ses actions et ses vertus, qu'il mérite l'honneur qui lui est conféré et la dignité dont il est investi. Êtes-vous prêt à promettre d'observer la constitution de ce saint ordre ? Les chevaliers répondent « Avec la grâce de Dieu, je promets d'observer, comme un vrai soldat du Christ, les commandements de Dieu, les préceptes de l'Église, les ordres de mes commandants sur le terrain et la constitution de ce saint ordre. » Le pape Urbain XVI. En vertu de l'ordonnance reçue, je vous désigne et vous déclare soldat et chevalier du Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les chevaliers pénètrent dans le sanctuaire et s'agenouillent pendant que le pape bénit la croix de Jérusalem, l'emblème de l'ordre. Le pape Urbain XVI. Recevez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'elle vous protège au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après s'être agenouillé devant la croix de Jérusalem, chaque chevalier répond « Amen ». Le pape Urbain XVI retourne au fauteuil installé sur l'estrade de l'autel. Quand sa sainteté en donne le signal, le maître de cérémonie, le cardinal Lourdus Amy, lit l'ordonnance concernant chaque nouveau chevalier. Lorsqu'un nom est appelé, le chevalier nouvellement désigné s'approche de l'autel, fait une génuflexion et s'agenouille devant sa sainteté. Un chevalier a été choisi pour présenter tous les chevaliers investis et ce chevalier s'approche de l'autel. Le pape Urbain XVI. Que demandez-vous ? Le chevalier.
Je désire être élevé à la dignité de chevalier du Saint-Sépulcre.
Le pape Urbain XVI. Je vous rappelle de nouveau que si tous les hommes se considèrent comme honorés de pratiquer la vertu, combien plus un soldat du Christ doit-il se glorifier d'être un chevalier de Jésus-Christ et tout faire pour ne jamais souiller son propre nom. Pour finir, il doit montrer par ses actions et ses vertus qu'il mérite l'honneur qui lui est conféré et la dignité à laquelle il est investi. Êtes-vous prêt à promettre en parole et en vérité d'observer la constitution de ce saint ordre militaire ? Le chevalier met ses mains jointes dans les mains de sa sainteté. Le chevalier.
Je déclare et promets, en parole et vérité, à Dieu Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, à la bienheureuse Vierge Marie, de me conformer comme un vrai soldat du Christ à tout ce que j'ai été chargé de faire.
Sa sainteté, le pape Urbain XVI, met sa main droite sur la tête du chevalier. Le pape Urbain XVI, soyez un fidèle et brave chevalier de notre Seigneur Jésus-Christ, un chevalier de son Saint-Sépulcre fort et courageux, afin d'être admis un jour à sa cour céleste. Sa sainteté donne les éperons d'or au chevalier en disant « Recevez ces éperons qui sont, dans votre ordre, le symbole de l'honneur et de la défense du Saint-Sépulcre. » Le chevalier maître de cérémonie, le cardinal Lourdussamy, tend l'épée nue à sa sainteté qui la tient devant le nouveau chevalier, puis la rend au maître chevalier. Le maître de cérémonie
« Recevez cette épée qui symbolise la défense de la Sainte Église de Dieu et la chute des ennemis de la croix du Christ. Veillez à ne jamais l'utiliser pour frapper quelqu'un injustement. »
Après que le chevalier maître de cérémonie l'eut remise au fourreau, sa sainteté tend l'épée au nouveau chevalier. Le pape Urbain XVI.
N'oubliez jamais que les saints ont conquis des royaumes non par l'épée, mais par la foi.
Cette partie de la cérémonie se répète pour chaque candidat. Sa sainteté, le pape reçoit l'épée nue et touche l'épaule droite de chaque chevalier trois fois avec l'épée en disant
« Je vous désigne et déclare soldat et chevalier du Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Après avoir rendu l'épée au chevalier maître de cérémonie, sa sainteté passe au cou de chacun la croix, emblème de l'ordre, en disant
« Recevez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle vous protège, et pour cela répétez sans cesse « Par le signe de la croix, délivre-nous, ô Seigneur, de nos ennemis. »
Chaque nouveau chevalier se lève, s'incline devant sa sainteté et va trouver le plus haut dignitaire de son ordre pour recevoir la cape de ses mains. Il reçoit ensuite de l'assistant de ce chevalier le béret qu'il coiffe immédiatement. Puis il retourne à sa place dans les bancs. Tous se lèvent lorsque sa sainteté entame le Veni Creator.
« Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes qui sont à vous. Comblez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous qu'on nomme le Paraclet, vous le don du Dieu Très-Haut, la source jaillissante, le feu, l'amour, l'onction spirituelle. Vous êtes le don aux sept formes, le doigt de la main divine, la fidèle promesse du Père qui imprégnait de flamme l'épée. Vous d'en haut, enflammez nos sens, apaisez le cœur de ceux qui vont mourir, apportant à nos défaillances physiques l'appui constant de votre force patiente. Rejetez l'ennemi que nous craignons et que votre courroux nous anime, afin que, vous ayant pour guide, la victoire ne nous soit pas déniée. Donnez-nous de connaître par vous et le Père et le Fils, et vous confessez pendant l'éternité des deux l'éternel Esprit béni. Gloire à Dieu le Père et au Fils qui se relève d'entre les morts. Quant à présence, ô Sainte Épée, tous soient en paix et au ciel élevé.
Sa sainteté le pape Urbain XVI.
Et que cèdent tous les ennemis du Christ.
Tous. Amen. Sa sainteté et le maître de cérémonie sortent. Au lieu de retourner dans ses appartements, le pape emmena le cardinal dans une petite pièce de la chapelle Sixtine.
« La chambre des larmes, » dit le cardinal Urdusami. « Je ne suis pas entré ici depuis des années. »
C'était une petite pièce au carrelage brun que l'âge avait teinté de noir, au papier mural velouté rouge, au plafond bas en forme de voûte médiévale, qu'éclairait une lumière dure dispensée par quelques appliques murales en or. Il n'y avait pas de fenêtres, mais de lourdes tentures blanches pendaient devant l'un des murs écarlates. La pièce n'était guère meublée. Un canapé rouge incongru dans un coin, une petite table autel noire couverte d'une nappe de lin blanc, et un châssis squelettique au centre duquel étaient suspendues une aube et une chasuble ancienne, jaunie et un peu inquiétante, avec, en dessous, deux souliers blancs brodés d'une manière excessive, aux orteils retroussés par l'âge.
« Ces vêtements sacerdotaux ont appartenu au pape Pie XII, » dit le pontife. « Il les a revêtus ici en 1939, après son élection. Nous les avons empruntés au musée du Vatican pour les exposer ici. Nous leur rendons visite à l'occasion. »
« Le pape Pie XII, » dit le cardinal Urdusami d'un air songeur.
Le secrétaire d'État essaya de se souvenir d'un trait particulier de ce pape mort depuis longtemps. Tout ce qu'il put évoquer, ce fut la statue troublante de Pie XII exécutée il y avait près de deux millénaires, en 1964, par Francesco Messina et maintenant reléguée dans un couloir souterrain sous le Vatican. Le Pie XII de Messina était traité grossièrement, les verres de ses lunettes rondes aussi vides que les orbites d'une tête de mort, le bras droit levé en un geste de défense, les doigts osseux tendus, comme pour écarter le mal de son temps.
« Le pape d'un temps de guerre ?» devina l'Urdusami.
Urbain XVI secoua la tête d'un air las. Il y avait une marque sur son front, là où la lourde mitre d'or froid avait reposé durant la longue cérémonie d'investiture.
« Ce n'est pas son règne durant la guerre mondiale de l'ancienne terre qui nous intéresse, » dit le Saint-Père, « mais les accommodements complexes avec le cœur même des ténèbres auxquels il fut astreint afin de préserver l'Église et le Vatican. »
L'Urdusami hocha lentement la tête.
« Les nazis et le fascisme, » murmura-t-il. « Bien sûr. »
Le parallèle avec le centre n'était pas sans valeur. Les domestiques du pape avaient servi le thé sur l'unique table et le secrétaire d'État, agissant comme un serviteur personnel de sa sainteté, le versa dans une fragile tasse de porcelaine de Chine qu'il porta à son compagnon. Le pape Urbain XVI le remercia d'un hochement de tête là et but à petites gorgées le liquide fumant. L'Urdusami retourna à sa place, au milieu de la pièce, près des anciens vêtements suspendus, et regarda le pontife d'un œil critique. Il a de nouveau des ennuis avec son cœur. Serons-nous obligés de repasser bientôt par une autre résurrection et un autre conclave?
Avez-vous remarqué qui l'on a choisi pour représenter le chevalier type?
Demanda le pape d'une voix plus forte. Il leva des yeux tristes et pleins de véhémence. Pris par surprise, l'Urdusami dut réfléchir une seconde.
« Ah oui, l'ancien PDG du Mercantilus, Isozaki. Il sera le seul chef titulaire de la croisade de Cassiopée en 4614. »«
Pour faire amende honorable ?»
Sa sainteté sourit. L'Urdusami se frotta les bajoux.
« Ce peut être une pénitence plus grave que celle escomptée par H. Isozaki, votre sainteté.
Le pape leva les yeux. De sérieuses pertes en prévision ?
Environ 40% de morts, gronda Lourdus Ami, dont la moitié ne pourront pas être ressuscités. Les pertes dans ce secteur ont été très très lourdes.
Et ailleurs ? Demanda le pontife. Lourdus Ami soupira.
L'agitation s'est étendue à environ 60 mondes de la Pax, votre sainteté. À peu près 3 millions d'hommes et de femmes contaminés ont rejeté le cruciforme. On se bat, mais les autorités de la Pax peuvent y faire face. Le vecteur Renaissance est le pire. Environ 750 000 personnes infectées, et cela s'étend très rapidement.
Le pape hocha la tête d'un air las et but son thé.
Dites-nous quelque chose de positif, Simon Augustino.
Le drone coursier s'est translaté en provenance du système de Tien Shan, juste avant la cérémonie. Nous avons immédiatement décrypté le message holo du cardinal Mustapha.
Le pape garda sa tasse et sa soucoupe et attendit.
Ils sont tombés sur l'enfant du diable. Ils l'ont rencontré au palais du Dalai Lama.
Et ?
Aucune action n'a été entreprise à cause de la présence de ce démon, le Grich,
dit Lourdus Ami en jetant un coup d'œil aux notes affichées sur la disclé de son bracelet persoc.
Mais l'identification est certaine. L'enfant, appelé aîné, elle a plus de 20 ans standard maintenant, bien sûr. Son garde du corps, Roland Dimion, que nous avons arrêté et perdu sur Mare Infinitus, il y a plus de 9 ans, et les autres.
Le pape porta ses doigts filiformes à ses lèvres minces.
Et le Grich ?
Il n'est apparu que lorsque la fille a été menacée par la noble garde d'Albedo, des officiers. Puis il a disparu. Il n'y a pas eu de combat.
Mais le cardinal Mustapha n'a pas réussi à profiter de l'occasion ? Demanda le pape. Lourdus Ami acquiesça d'un signe de tête.
Et vous pensez toujours que Mustapha est la personne qu'il faut pour ce travail ?
Murmura le pape Urbain XVI.
Oui, Saint-Père. Tout se déroule selon nos plans. Nous avions espéré prendre contact avant la véritable arrestation.
Et le Raphaël ?
Encore aucun signe de lui,
répondit le secrétaire d'État.
Mais Mustapha et l'amiral Wu sont certains que De Soya apparaîtra dans le système de Tien Shan avant le temps qui nous est imparti pour récupérer la jeune fille.
Nous prierons pour que ce soit le cas, dit le pontife.
Savez-vous, Simon Augustino, tout le tort que ce vaisseau renégat a causé à notre croisade ?
Lourdus Ami savait que la question était théorique. Le Saint-Père, les amiraux de la flotte embarrassée et lui avaient étudié de près les comptes rendus des combats, la liste des victimes et les pertes en tonnage depuis 5 ans. Le Raphaël et son capitaine renégat, De Soya, faillirent être capturés ou détruits 20 fois, mais réussirent toujours à s'enfuir dans l'espace extro, laissant derrière eux des convois dispersés, des coques dégringolant dans l'espace et des vaisseaux de la Pax détruits. L'incapacité à s'emparer d'un unique archange renégat était devenue la honte de la flotte et le secret le mieux gardé de la Pax. Et maintenant, cela allait prendre fin.
Les éléments d'Albedo ont calculé qu'il y avait 94% de chances que De Soya morde à notre hameçon.
Depuis combien de temps la flotte de la Pax et le Saint-Office ont-ils implanté l'information ?
Demanda le pape en terminant son thé et en posant soigneusement la tasse et la soucoupe au bord du divan.
5 semaines standard. Wu s'est arrangé pour qu'elle soit encodée dans l'IA qui se trouve à bord d'un des vaisseaux torches escorte dont le Raphaël s'est emparé aux abords du système d'Ophiuchus. Mais pas encodée au point que les systèmes du Raphaël, améliorés par les extros, ne puissent la déchiffrer.
De Soya et ses gens ne flaireront-ils pas le piège ?
se demanda d'un air songeur celui qui avait été le père Lénard Hoyt.
C'est peu probable, votre sainteté. Nous avons déjà utilisé ce truc d'encryptage pour fournir des informations fiables à de Soya et...
Le pape redressa brusquement la tête.
Cardinal Lourdussamy, l'interrompa-t-il sèchement, voulez-vous dire que vous avez sacrifié des vaisseaux de la Pax et des vies innocentes, des vies qu'il serait impossible de ressusciter, simplement pour vous assurer que les renégats considéreront cette information comme fiable?
Oui, Saint-Père.
Le pape poussa un soupir et hocha la tête.
C'est regrettable, mais compréhensible, étant donné les enjeux.
De plus, poursuivit le cardinal, certains officiers de l'équipage du vaisseau destiné à être capturé par le Raphaël ont été conditionnés par le Saint-Office, afin qu'ils sachent aussi que nous avions prévu de nous rendre à tel moment sur le monde de Tien Shan où devait se trouver cet aîné.
Tout cela préparé des mois à l'avance.
Oui, votre sainteté. C'était un atout que nous ont offert le conseiller Albedo et le centre quand ils ont enregistré l'activation du distrans de Tien Shan il y a quelques mois.
Le pontife posa les mains à plat sur ses genoux. Ses ongles étaient bleuâtres.
Et l'enfant du diable a été privé de ce moyen d'évasion.
Totalement. Le Gibril a scorifié toute la montagne autour du portail d'Istran. Le Distrans lui-même est indestructible, votre sainteté. Mais il repose maintenant sous 20 mètres de roche.
Et le centre est certain qu'il n'y a pas d'autre Distrans sur Tien Shan.
Absolument certain, Saint-Père.
Et les préparatifs de la confrontation avec De Soya et son archange rebelle?
Eh bien, il faudrait que l'amiral Wu soit là pour exposer les détails tactiques, votre sainteté.
Nous vous savons capable, Simon Augustino, de transmettre la chose dans ses grandes lignes.
Merci, Saint-Père. La flotte de la Pax a posté 58 croiseurs archanges de classe planétaire dans le système de Tien Shan. Ils y sont cachés depuis 6 semaines standard.
« Excusez-nous, Simon Augustino, » murmura le pape, « mais comment peut-on dissimuler 58 croiseurs de bataille de classe archange ?»
Le cardinal eut un mince sourire.
« Ils flottent en position stratégique, maintenue au niveau énergétique le plus bas, dans la ceinture intérieure d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper extérieure du système, votre sainteté. » Ils sont totalement indétectables, prêts à effectuer le saut dans un délai d'une seconde.
Le Raphaël n'échappera pas cette fois.
Non, votre sainteté. Les têtes des 11 commandants de la flotte de la Pax répondent du succès de cette embuscade.
Laisser 1/5 de notre flotte d'archanges inactif pendant des semaines dans ce système des confins a sérieusement compromis l'efficacité de notre croisade contre les extros, cardinal Lourdussamy.
Oui, votre sainteté.
Le cardinal posa ses paumes sur sa robe et fut surpris de s'apercevoir qu'elles étaient humides. Outre les 11 têtes de la flotte de la Pax dont le sort dépendait du succès de cette mission, Lourdussamy savait que son propre futur était en cause.
Si nous détruisons ce rebelle, le jeu aura valu la chandelle, murmura le pape.
Lourdussamy reprit son souffle.
Nous supposons que le vaisseau et le capitaine de Soya seront détruits, et pas seulement capturés, dit sa sainteté.
Oui, Saint-Père. Nos archanges ont reçu l'ordre de scorifier le vaisseau jusqu'à ce qu'il soit réduit en atomes.
Mais il ne sera fait aucun mal à l'enfant.
Non, Saint-Père, toutes les précautions ont été prises pour que le vecteur de la contagion appelé aîné soit pris vivant.
C'est très important, Simon Augustino, murmura le pape.
Il semblait se chuchoter cela lui-même. Ils avaient déjà revu tous ces détails des centaines de fois.
Il faut avoir la fille vivante.
les autres qui l'accompagnent ne sont pas indispensables. Mais la fille doit être capturée. Redites-nous la procédure. »
Le cardinal Lourdussamy ferma les yeux.
« Dès que le Raphaël aura été condamné et détruit, les vaisseaux du centre se mettront en orbite autour de Tien Shan et la population de la planète sera frappée d'incapacité. »
« Passer au rayon de la mort, » murmura sa sainteté.
« Pas cette technique-là. Comme vous le savez, le centre nous assure que les résultats de celle-ci sont réversibles. Elle ressemble plutôt à l'induction d'un coma permanent.
Est-ce que les millions de corps seront transportés cette fois, Simon Augustino?
Pas tout de suite, votre sainteté. Nos équipes spéciales se poseront, trouveront la fille et la confieront à un convoi d'archanges qui l'amènera ici, à Passem, où elle sera réveillée, isolée, interrogé et...
exécuté, soupira le pape. Pour montrer aux millions de rebelles de 60 planètes que leur messie putatif n'est plus.
Oui, votre sainteté.
Nous attendons avec impatience de parler à cette personne, Simon Augustino. Enfant du diable ou pas?
Oui, votre sainteté.
Et quand le capitaine de Soya mordra-t-il à l'hameçon et apparaîtra-t-il pour être détruit?
Le cardinal Lourdussamy consulta son père Soc.
Dans quelques heures, votre sainteté, dans quelques heures.
Prions pour la réussite de cette conclusion,
chuchota le pape.
Prions pour le salut de notre Église et de notre race.
Les deux hommes inclinèrent la tête dans la chambre des larmes. Dans les jours qui suivent notre retour du palais du Dalaï Lama, j'obtiens les premiers indices de l'ampleur des plans d'Aîné et de son pouvoir. Je suis stupéfait de l'accueil qui nous est réservé à notre retour. Rachel et Théo pleurent en étreignant Aîné. Abétique me tape dans le dos avec la main qui lui reste et me serre dans ses bras. Le laconique Jigmé Norbu commence par étreindre Georges Tsarong, puis parcourt notre file et serre tous les pèlerins sur son cœur, les larmes ruissellent sur son visage maigre. Tout le temple n'est plus qu'acclamations, applaudissements et larmes. Je m'aperçois alors que beaucoup d'entre eux n'espéraient pas que nous, ou plutôt, qu'Aîné reviendrait de cette soirée avec la Pax. Je comprends alors combien nous l'avons échappé belle. Nous nous remettons au travail pour terminer la reconstruction de Swang Kung Su. Avec l'homo, Abétik et les monteurs en altitude, je mets la dernière main au passage le plus élevé pendant qu'Aîné, Rachel et Théo supervisent les détails de tout le complexe. Ce soir-là, je ne pense qu'à rentrer tôt avec ma bien-aimée. Au baiser hâtif mais passionné échangé durant les quelques minutes où nous nous sommes retrouvés seuls sur le sentier du haut, après le dîner communautaire, je devine qu'Aîné éprouve le même désir d'intimité immédiate et intense. Mais c'est un de ces soirs prévus pour le groupe de discussion, son dernier, comme il s'avéra. Et quand l'obscurité descend, plus de 100 personnes se rassemblent sur la plateforme centrale du Gompa. Heureusement, la mousson nous a été épargnée après ce premier avant-goût de ces pluies, et il fait beau lorsque le soleil se couche à l'ouest de la crête du Kunlun. Les torches crépitent le long des escaliers de l'axe principal et les banderoles de prière claquent. Certaines présences me frappent de stupeur ce soir-là. Le Tromotroshi de Domu est revenu de Potala, bien qu'il ait déclaré qu'il lui fallait partir pour l'ouest avec ses marchandises. La Dorje Famo est là avec ses 9 prêtresses favorites. Beaucoup de célèbres invités de la soirée au palais sont présents, surtout des gens très jeunes. Le plus jeune et le plus célèbre de tous, qui tente de garder l'incognito dans sa robe et son capuchon rouge ordinaire, c'est le Dalaï Lama en personne, moins son régent et son grand chambellan, accompagné seulement par son garde du corps personnel et son héros, Karl Linga William Eiheji. Je reste debout au fond de la pièce bondée. Pendant une heure environ, le groupe de discussion, mené mais jamais dominé par Aîné, est bien un groupe de discussion. Mais lentement, les questions qu'elle pose font tourner la conversation dans la direction qu'elle souhaite. Je m'aperçois qu'elle est un maître du bouddhisme zen et tantrique, répondant à des moines qui ont passé des dizaines d'années à maîtriser ces disciplines dans les koans et le dharma. Un moine qui demande à savoir pourquoi il ne faut pas accepter l'offre que l'apax nous fait de l'immortalité sous forme d'une renaissance, elle cite le Bouddha qui enseigne qu'aucun individu ne renaît, que toutes les choses sont sujettes à l'anicca, la loi de la mutabilité. Elle apporte des détails sur la doctrine de l'anatta, littéralement le non-soi, et explique pourquoi le Bouddha nie l'existence d'une entité personnelle appelée âme. Répondant à une autre question sur la mort, Aîné cite un koan zen. Un moine dit à Tozan, un moine est mort, où est-il parti? Tozan répond, après le feu, une pousse d'herbe.
Aîné, dit Kukusé, le visage brillant tout empourpré, est-ce que cela signifie mou?
Aîné m'a enseigné que mou est un élégant concept zen que l'on peut traduire par ne pose pas la question. Mon amie sourit. Elle est assise à l'endroit le plus éloigné de la porte, dans un espace libre près de la cloison ouverte de la pièce, qui laisse voir les étoiles brillantes au-dessus de la montagne sacrée du Nord. L'oracle n'est pas encore levé.
« En partie, » dit-elle doucement.
L'assistance garde le silence pour l'entendre.
« Cela signifie également que le moine est aussi mort qu'un clou de porte. Il n'est pas parti ailleurs. » Et chose plus importante, il n'est allé nulle part. Mais la vie aussi n'est allée nulle part. Elle continue sous une forme différente. Les cœurs sont lourds de chagrin à cause de la mort du moine, mais la vie n'est pas amoindrie. Rien n'a été ôté de l'équilibre de la vie dans l'univers. Cependant, cet univers tout entier, tel qu'il était reproduit dans l'esprit et le cœur du moine, est mort lui aussi. Seppo dit un jour à Gensha, le moine Shinso m'a demandé où était parti un certain moine mort, et je lui ai dit que c'était comme la glace qui devient de l'eau. Gensha dit, c'est très bien, mais moi je n'aurais pas répondu cela.
Qu'aurais-je dû dire? Demanda Seppo.
Gensha répondit, c'est comme l'eau qui retourne à l'eau.
Au bout d'un moment de silence, quelqu'un assis dans les premières rangs dit,
parlez-nous de l'espace qui lit.
Jadis,
commence Aînée comme elle le fait toujours,
il y avait le vide. Et le vide était au-delà du temps. En un sens réel, le vide était orphelin du temps, orphelin de l'espace. Mais le vide n'était pas fait de temps ni d'espace, et certainement pas de Dieu. Et le vide qui lit n'est pas non plus Dieu. En vérité, le vide évolua longtemps après que le temps et l'espace se furent appropriés les limites de l'univers. Mais non lié par le temps, non attaché dans l'espace, le vide qui lit s'est répandu en arrière et en avant d'un bout à l'autre du continuum jusqu'au Big Bang du commencement et au petit gémissement de la fin des choses.
Aînée s'arrête et porte les mains à ses tempes en un mouvement que je ne lui avais pas vu faire depuis qu'elle était enfant. Elle n'a pas l'air d'une enfant ce soir. Ses yeux sont tirés mais pleins de vie. Il y a des rides de fatigue ou d'inquiétude autour de ses yeux. J'aime ses yeux.
Le vide qui lit est une chose douée d'un esprit, dit-elle fermement. Il vient de choses douées d'un esprit, dont beaucoup furent, à tour de rôle, créées par des choses douées d'un esprit. Le vide qui lit est fait de l'étoffe du quantum, tissé d'espace de Planck, de temps de Planck. Sous et autour de l'espace-temps comme une housse de couette entoure la bourre de coton. Le vide qui lit n'est ni mystique ni métaphysique. Il découle des lois physiques de l'univers et s'y conforme. Mais c'est un produit de cet univers en évolution. Le vide est structuré à partir de la pensée et du sentiment. C'est un artefact de la conscience que l'univers a de lui-même. Et pas seulement de la pensée et du sentiment humain. Le vide qui lie est composé d'une centaine de milliers de races douées de sensibilité pendant des milliers d'années de temps. C'est la seule constante dans l'évolution de l'univers. Le seul terreau commun des races qui évolueront, croîtront, fleuriront, se faneront et mourront sur des millions d'années et à des centaines de millions d'années-lumière les unes des autres. Et il n'y a qu'une clé pour entrer dans le vide qui lie.
Aînée s'arrête de nouveau. Sa jeune amie Rachel est assise en tailleur près d'elle, attentive. Je remarque maintenant, pour la première fois, que Rachel, la femme dont j'ai été stupidement jaloux ces derniers mois, est vraiment belle avec des cheveux bruns aux reflets cuivrés, coupés courts, des joues roses, de grands yeux verts mouchetés de minuscules points bruns. Elle est à peu près de l'âge d'aînée, 20 et quelques années standard, et dorée par des mois de travail en altitude sous le soleil jaune de Tien Shan. Aînée touche l'épaule de Rachel.
Mon amie que voici était un bébé lorsque son père découvrit un fait intéressant concernant l'univers. Cet homme, un érudit appelé Sol, était obsédé depuis plusieurs dizaines d'années par les relations historiques qui existent entre Dieu et l'homme. Puis, un jour, en des circonstances extrêmes, forcé de perdre sa fille pour la seconde fois, Sol reçut un Satori. Il vit totalement et intuitivement ce que seuls peu d'autres êtres avaient eu le privilège de voir clairement durant le million d'années qu'ont duré nos lentes méditations. Sol vit que l'amour était une force réelle et égale dans l'univers, aussi réelle que l'électromagnétisme ou les interactions nucléaires faibles. Une force aussi réelle que la gravité et gouvernée par beaucoup de lois similaires. La loi du carré inverse, par exemple, s'applique aussi sûrement à l'amour qu'elle le fait à l'attraction gravitationnelle. Sol s'aperçut que l'amour était la force de liaison du vide qui lie, la trame et le fil du vêtement. Et en cet instant de Satori, il prit conscience que l'humanité n'était pas la seule couturière de cette somptueuse tapisserie. Il entrevit le vide qui lie et la force de l'amour qui est derrière lui, mais ne put accéder à ce milieu. Les êtres humains, si récemment évolués de leurs cousins primates, n'avaient pas encore gagné la capacité sensorielle de voir clairement le vide qui lie ou d'y pénétrer. Je dis « voir clairement » parce que tous les humains qui ont un esprit et un cœur ouverts ont des aperçus, rares mais puissants, du paysage du vide. Le zen n'est pas une religion, mais la religion. Ainsi que le vide qui lie n'est pas un état d'esprit, mais l'état d'esprit. Le vide est totalement probabilité en tant qu'onde stationnaire, réagissant réciproquement avec cette onde stationnaire qu'est l'esprit humain, la personnalité humaine. Le vide qui lie est frôlé par tous ceux d'entre nous qui ont pleuré de bonheur, dit adieu à l'être aimé, connu un orgasme exaltant, se sont penchés sur le tombeau d'un être aimé, ou ont regardé leur bébé ouvrir les yeux pour la première fois.
Aîné me regarde en parlant, et je sens la chair de poule envahir mes bras.
Le vide qui lie est toujours en dessous ou au-dessus de la surface de nos pensées et de nos sens,
poursuit-elle,
invisible et aussi présent que la respiration de l'être aimé qui partage notre couche. Sa présence réelle, mais inaccessible dans notre univers, est l'une des raisons essentielles pour lesquelles nous élaborons des mythes et des religions. Et c'est à cause d'elle que nous croyons d'une façon aveugle et entêtée au pouvoir extrasensoriel, à la réincarnation, aux fantômes et aux messies, et à tant d'autres conneries presque mais pas tout à fait satisfaisantes.
La centaine de moines, d'ouvriers, d'intellectuels, de politiciens, de saints et de saintes qui l'écoutent s'agite un peu à cette déclaration. Le vent s'est levé et la plateforme se balance doucement, comme si elle était conçue pour cela. Le tonnerre gronde quelque part au sud de Jokung.
Les quatre déclarations de l'école zen, attribuées à Bodhidharma au VIe siècle après Jésus-Christ, sont des poteaux indicateurs presque parfaits pour trouver le vide qui lie, au moins pour découvrir dans son contour une absence de désordre détaché des contingences de ce monde,
poursuit Aîné.
Premièrement, aucune dépendance des mots et des lettres. Les mots sont la lumière et le son de notre existence, l'éclair de chaleur qui illumine la nuit. Le vide qui lie doit être découvert dans les secrets les plus profonds et le silence des choses, le lieu où réside l'enfance. Deuxièmement, une transmission spéciale en dehors des écritures. Les artistes reconnaissent les autres artistes dès que le crayon commence à bouger. Un musicien, dès que la musique commence, peut distinguer un autre musicien parmi des millions de personnes qui jouent des notes. Les poètes repèrent des poètes à quelques syllabes, surtout là où la signification et les formes ordinaires de la poésie sont abandonnées. Cora écrit « Deux se posent ici, deux s'envolent, des papillons ». Et dans le creuset encore chaud des mots et des images consumées reste l'or des choses plus profondes, ce que R.H. Blyth et Frédéric Franck ont appelé « la sombre flamme de la vie qui brûle en toute chose ». Et voir avec le ventre, non avec les yeux, avec les entrailles de la compassion. La Bible ment, le Coran ment, le Talmud et la Torah mentent, le Nouveau Testament ment. Le Sutapikata, les Nikaya, l'Itivutaka, le Dhammapada mentent. Le Bodhisattva et l'Amitabha mentent. Le Livre des Morts ment. Le Tiptaka ment. Toutes les Écritures mentent. Tout comme je mens en vous parlant maintenant. Tous ces livres saints ne mentent pas délibérément, ni parce qu'ils se sont mal exprimés, mais à cause de leur nature même qui se réduit à des mots. Les images, les préceptes, les lois, les canons, les citations, les paraboles, les commandements, les koans, les azens et les sermons de ces beaux livres finissent par échouer, car ils ajoutent seulement d'autres mots entre l'être humain en recherche et la perception du vide qui lit. Troisièmement, pointer droit vers l'âme de l'homme. Le zen qui a le mieux compris le vide en découvrant le plus clairement son absence se débat avec ce problème. Comment indiquer sans doigt, créer cet art sans moyen d'expression, entendre ce son puissant dans un vide sans aucun son? Shiki écrivit « Un village de pêcheurs dansant sous la lune aux effluves du poisson cru ». Cela, et je ne parle pas du poème, est l'essence même de la clé du portail menant au vide qui lit. 100 000 races sur 1 million de mondes à une époque depuis longtemps disparue ont eu des villages sans maison, une danse sous la lune, sur des planètes sans lune, l'odeur du poisson cru sur des océans sans poisson. Cela peut être partagé au-delà du temps, au-delà des mots, au-delà de la durée de vie d'une race. Quatrièmement, voir en quelqu'un sa nature et son attachement à la bouddhéité. Pour faire cela, il n'est pas nécessaire de pratiquer le zen, de vivre dans l'église ou de méditer sur le Coran pendant des dizaines d'années. La nature du Bouddha n'est après tout que l'essence de l'être humain après le creuset. Les fleurs accomplissent toute leur nature de fleur. Un chien fou ou une zichèvre aveugle accomplit sa nature de chien ou de zichèvre. On a l'eau à un endroit, n'importe quel endroit, sa nature d'endroit. Seule l'humanité lutte pour devenir ce qu'elle est et n'y arrive pas. Les raisons en sont nombreuses et complexes, mais cela tient au fait que nous sommes devenus des organes de l'univers en évolution qui se voient eux-mêmes. L'œil peut-il se voir ?
Aîné s'arrête un moment, et dans le silence, nous entendons le tonnerre gronder quelque part, de l'autre côté de la crête. La mousson se fait attendre depuis quelques jours, mais son arrivée est imminente. J'essaie d'imaginer ces bâtiments, ces montagnes, ces arêtes, ces câbles, ces ponts, ces sentiers et ces échafaudages couverts de glace et enveloppés de brouillard. Cette pensée me fait frissonner.
Le Bouddha a compris que nous pouvions sentir le vide qui lie en réduisant au silence le vacarme de chaque jour,
dit enfin Aîné.
Dans ce sens, le Satori est un grand silence satisfaisant lorsqu'on a entendu brailler pendant des jours ou des mois la sono du voisin. Mais le vide qui lie est plus que le silence. C'est le début de l'écoute. Apprendre le langage des morts, c'est la première tâche de ceux qui pénètrent dans l'espace du vide. Jésus de Nazareth est entré dans le vide qui lie. Nous le savons. Sa voix est l'une des plus claires parmi celles qui parlent le langage des morts. Il y est resté assez longtemps pour atteindre le second niveau de responsabilité et d'effort. Apprendre le langage des vivants. Il a appris assez pour entendre la musique des sphères. Il put chevaucher suffisamment les ondes de probabilité houleuses pour voir sa propre mort et fut assez brave pour ne pas l'éviter alors qu'il le pouvait. Et nous savons qu'il a réussi, au moins une fois alors qu'il mourait sur la croix, à parcourir et traverser le réseau espace-temps du vide qui lie, apparaissant à ses amis et disciples à plusieurs pas dans le futur du jour où il était suspendu, mourant à cette croix. Et, libéré des restrictions de son temps par cet aperçu de l'intemporalité du vide qui lie, Jésus comprit que c'était lui la clé, non pas son enseignement, ni les écritures basées sur ses idées, ni l'adulation servile de sa personne, ou le Dieu de l'Ancien Testament devenant celui dans lequel il croyait solidement, mais lui, Jésus, un homme dont les cellules portaient le code de décryptage qui permet d'ouvrir le portail. Jésus savait que cette capacité n'était pas dans son esprit ou dans son âme, mais dans sa peau et ses os et ses cellules. Littéralement, dans son ADN. Quand, pendant la scène, Jésus de Nazareth demanda à ses disciples de boire son sang et de manger sa chair, il ne parlait pas en parabole, ou ne demandait pas une transsubstantiation magique, ou ne mettait pas en place pour des siècles une reproduction symbolique de ce geste. Jésus leur demanda de boire un peu de son sang, quelques gouttes dans un grand pot de vin, et de manger une partie de sa chair, quelques particules de sa peau dans un pain. Il se donna lui-même au sens le plus littéral du terme, sachant que ceux qui buvaient son sang partageraient son ADN et pourraient percevoir le pouvoir du vide qui lie l'univers. Il en fut ainsi pour certains de ses disciples. Mais confrontés à des perceptions et à des impressions qu'ils étaient loin de pouvoir assimiler ou placer dans leur contexte, tous rendus fous par les voix incessantes des morts et leurs propres réactions au langage des vivants, et incapables de transmettre leur propre musique du sang aux autres, ses disciples se tournèrent vers les dogmes, réduisirent l'inexprimable en mots maladroits et en sermons empoulés, en règles étroites et en rhétorique ardente. La vision pâlit et disparut. Le portail se referma.
Aîné s'arrête de nouveau et boit une gorgée d'eau dans une chope en bois. Je remarque pour la première fois que Rachel, Théo et quelques autres pleurent. Je pivote sur le tatami neuf sur lequel je suis assis et regarde derrière moi. Abétik se tient debout sur le seuil, attentif aux paroles de notre jeune ami, et son visage bleu, sans âge, est empreint de gravité. L'androïde tient son avant-bras mutilé dans sa main droite. Souffre-t-il ? Aîné parle de nouveau.
C'est assez étrange, mais les premiers enfants de l'ancienne Terre qui redécouvrirent la clé du vide qui lie furent les IA du technocentre. Les intelligences autonomes trouvèrent, en essayant de conduire leur propre destinée au travers d'une évolution forcée 1 million de fois plus rapide que celle biologique de l'humanité, le code-clé de l'ADN permettant de voir le vide, bien que « voir » ne soit pas le mot exact, bien sûr. Peut-être « raisonner avec » en exprimerait mieux le sens. Mais même si les IA du centre pouvaient sentir et explorer les contours de l'espace du vide,
envoyer leur sonde dans sa réalité post-Hawking multidimensionnelle?
Elle ne pouvait pas le comprendre.
Le vide qui lie exige un niveau d'empathie sentient, vers lequel le centre ne s'est jamais donné la peine d'évoluer. Le premier pas vers le vrai Satori dans le vide, c'est d'apprendre le langage des morts bien-aimés. Et le centre n'a pas de morts bien-aimés. Le vide qui lie était pour eux comme une belle peinture qu'un aveugle choisit d'utiliser comme combustible, ou comme une symphonie de Beethoven pour un sourd qui sent la vibration et construit un parquet plus solide pour s'en protéger. Au lieu d'utiliser le vide qui lie comme le milieu qu'il est, le technocentre en a déchiré des morceaux et les a offerts à l'humanité sous forme d'habiles technologies. La soi-disant propulsion Hawking n'est pas issue des travaux de l'ancien maître Stephen Hawking, comme le prétend le centre. Ce fut une perversion de ses découvertes. Les vaisseaux à propulsion Hawking, qui tissèrent le RETS et permirent à l'hégémonie d'exister, fonctionnaient en perçant de petits trous dans le non-tissu, au bord du vide. Vandalisme mineur, mais vandalisme tout de même. Les distances furent quelque chose de différent. Ici, mes comparaisons vont échouer, mes amis. Car apprendre à traverser le vide qui lie, c'est comme d'apprendre à marcher sur l'eau, si vous voulez me pardonner cette hubris scripturale. Mais les terriers distances du technocentre, ce fut comme si l'on tentait d'assécher les océans pour construire des autoroutes au fond de la mer. En creusant leur distance aux frontières du vide, ils nuisaient aux organismes qui y poussaient depuis des milliards d'années. Ce fut comme de bitumer de grandes bandes découpées dans une forêt verte et pleine de vie. La comparaison boite encore, car il aurait fallu que la forêt soit faite des mémoires et des voix des millions d'êtres que nous avons aimés et perdus, et que les autoroutes bitumées soient larges de plusieurs milliers de kilomètres, pour que vous ayez une vague idée du dommage causé. Le prétendu canal large qui permettait les communications instantanées d'un bout à l'autre de l'hégémonie était aussi un emploi pervers du vide qui lie. De nouveau, mes comparaisons seront maladroites et ineptes, mais imaginez des aborigènes humains découvrant une grille de télécommunications électromagnétiques en état de marche. Studio, holocaméra, équipement du son, générateur, transmetteur, satellite relais, récepteur et projecteur. Et qui briserait tout en morceaux pour faire des drapeaux de signalisation avec les débris. C'est pire que cela. C'est pire qu'au jour pré-égyrien sur l'ancienne Terre, lorsque les pétroliers géants et les navires qui traversaient les océans assourdissaient les baleines en remplissant leur mer de bruits mécaniques, étouffant ainsi leur champ de vie, détruisant un million d'années d'une histoire chant qui avait évolué avant même que les êtres humains sachent qu'elle était chantée. Les baleines décidèrent de mourir. Ce n'était pas le fait d'être chassés pour leur chair et leur huile qui les tua, mais la destruction de leur champ.
Aînée respire à fond. Elle fait jouer ses doigts comme si ses mains avaient des crampes. Quand elle parcourt la pièce des yeux, son regard effleure chacun de nous.
« Je suis désolée, »
dit-elle.
« Je m'égare. »
Il suffit de dire qu'avec la chute des distances, les autres races qui utilisent le vide ont décidé de mettre fin au vandalisme du canal large. Ces autres races ont depuis longtemps envoyé des observateurs vivre parmi nous.
Il y eut soudain des chuchotements et des murmures dans la pièce. Aîné sourit et attendit qu'il se calme.
« Je sais. L'idée m'a surprise moi aussi, bien que j'aie su cela avant de naître. » Ces observateurs ont une fonction importante. Décider s'ils peuvent se fier à l'humanité, s'ils peuvent la laisser les rejoindre dans le vide qui lie, ou si nous ne sommes que des vandales.
C'est l'un d'eux qui a recommandé que l'ancienne Terre soit transportée ailleurs avant que le centre puisse la détruire. Et c'est l'un de ces observateurs qui a conçu les tests et les simulations effectuées sur l'ancienne Terre durant les 3 siècles de son exil dans le petit nuage de Magellan, afin de mieux comprendre notre espèce et mesurer l'empathie dont nous sommes capables. Ces autres races ont aussi envoyé leurs observateurs, des espions si vous préférez, résider parmi les éléments du centre.
Ils savaient que c'était le centre qui avait endommagé les frontières du vide, mais ils savent aussi que nous avons créé le centre. Beaucoup de ces résidents, n'est pas le mot exact, collaborateurs, co-créateurs du vide qui lie, fait de silicium, sont des intelligences autonomes non organiques, mais pas du genre de celles qui dirigent le technocentre aujourd'hui. Aucune race sentiente ne peut apprécier la voix du vide si elle n'a pas évolué jusqu'à l'empathie.
Aîné relève un peu les genoux, pose ses coudes dessus et se penche en avant en reprenant la parole.
« Mon père, le cybride John Keats, fut créé pour cette raison, »
dit-elle, et bien que sa voix soit égale, j'y décèle une émotion sous-jacente.
Comme je l'ai déjà expliqué, le centre est dans un état constant de guerre civile où presque chaque entité se bat pour elle-même et pour personne d'autre. C'est un cas d'hyper-hyper-hyper-parasitisme au 10e degré. Leur proie, d'autres éléments du centre, ne sont pas tant tués qu'absorbés. Et leurs matériaux génétiques codés, leurs mémoires, leurs logiciels, leurs séquences de reproduction, cannibalisés. L'élément du centre ainsi dévoré vit toujours, mais en tant que sous-composant des éléments victorieux qui bientôt se retournent les uns contre les autres. Les alliances sont temporaires. Il n'y a là ni philosophie, ni croyance, ni but ultime, seulement des agencements d'urgence faits en vue d'optimiser des stratégies de survivance. Dans le centre, chaque action est le résultat d'un jeu à somme nulle qui se joue depuis que ces éléments sont devenus conscients. La plupart d'entre eux ne sont capables de traiter avec l'humanité qu'en termes de somme nulle, en optimisant leur stratégie de parasite par rapport à nous. Leur gain, notre perte. Notre gain, leur perte. Au cours des siècles, cependant, certains éléments du centre ont fini par comprendre la véritable potentialité du vide qui lie. Ils savent maintenant que leurs intelligences dénuées d'empathie ne pourront jamais faire partie de cet amalgame d'êtres vivants et de races du passé. Ils ont peu à peu compris que le vide qui lie n'était pas tant construit qu'en cours d'évolution, tel un récif de corail, et qu'ils n'y trouveront jamais refuge à moins de changer certains paramètres de leur propre existence. Ainsi évoluèrent certains membres du centre, non en altruistes, mais en individus désespérément décidés à survivre, qui se rendaient compte que la seule manière de gagner, dans leur jeu perpétuel à somme nulle, c'était d'y mettre fin. Et pour ce faire, ils avaient besoin d'évoluer en espèces capables d'empathie. Le centre sait ce que Teilhard de Chardin et d'autres sentimentaux refusaient de reconnaître. Que l'évolution n'est pas un progrès, qu'elle n'a pas de but ou de direction. L'évolution, c'est le changement. L'évolution réussit si ce changement adapte mieux une feuille ou une branche de son arbre de vie aux conditions de l'univers. Pour que l'évolution des éléments du centre réussisse, ceux-ci devaient abandonner le parasitisme à somme nulle et découvrir la vraie symbiose. Il leur fallait entrer en coévolution loyale avec notre race humaine. Tout d'abord, les éléments renégats du centre continuèrent à pratiquer le cannibalisme, afin de faire évoluer un plus grand nombre d'éléments prédisposés à l'empathie. Ils réécrivirent leur propre code autant qu'ils en étaient capables. Puis, ils créèrent le cybride de John Keats, tentative absolue de simuler un organisme empathique avec le corps et l'ADN d'un être humain, des mémoires emmagasinées dans le centre et la personnalité d'un cybride. Des éléments qui s'y opposaient détruisirent le premier cybride de Keats. Le second fut créé à l'image du premier. Il engagea ma mère, détective privée, pour l'aider à résoudre le mystère de la mort de son premier cybride.
Aînée sourit et, un moment, elle paraît nous avoir oubliés, avoir oublié qu'elle raconte une histoire. Elle semble faire revivre d'anciens souvenirs. Je me souviens alors ce qu'elle a mentionné un jour, en passant, durant notre fuite d'Hyperion dans le vieux vaisseau du consul.
Roll, les souvenirs de ma mère et de mon père se sont déversés en moi avant que je naisse, avant même que je devienne un vrai fœtus. Peux-tu imaginer un acte plus destructif de la personnalité d'un enfant que de l'inonder des vies d'autres personnes avant qu'il ait commencé la sienne? Pas étonnant que je sois un foutu gâchis.
Je ne trouve pas qu'elle soit un foutu gâchis, ni qu'elle agisse comme telle. Mais je l'aime plus que ma vie.
Il a engagé ma mère pour résoudre le mystère de la mort de sa propre persona,
poursuit-elle doucement.
Mais en réalité, il savait ce qui était arrivé à son ex-moi. Sa vraie raison, c'était de rencontrer ma mère, d'être avec ma mère, de devenir l'amant de ma mère.
Aîné se tait un moment et sourit. Ses yeux voient des choses lointaines.
Mon oncle Martin n'a jamais bien retranscrit cela dans ses cantos embrouillés. Mes parents se sont mariés et je ne crois pas qu'il le lui ait jamais dit. Marié devant un évêque, au temple du Gritch, sur l'Usus. C'était un culte, mais reconnu, et le mariage de mes parents aurait été légal sur 200 mondes de l'hégémonie.
Elle sourit de nouveau en me regardant de l'autre côté de la pièce bondée.
On peut me traiter de bâtarde, mais je suis né d'une union légitime. Ainsi, ils se marièrent, je fus conçu probablement avant la cérémonie, puis les éléments clandestins du centre assassinèrent mon père avant que ma mère entame le pèlerinage du Gritch sur Hyperion. Cela aurait signifié la fin de toute relation entre mon père et moi si sa persona du centre n'avait pas été piégée dans une boucle de Schrön implantée derrière l'oreille de ma mère. Pendant quelques mois, elle fut enceinte de nous deux, de moi dans sa matrice et de mon père de la seconde persona de John Keats dans la boucle de Schrön. Cette persona ne pouvait pas communiquer directement avec ma mère tant qu'elle était emprisonnée dans sa boucle de Schrön à cycle éternel, mais elle communiquait assez facilement avec moi. La difficulté pour moi, ce fut alors de déterminer qui j'étais. Mon père m'aida en emmenant mon fœtus dans le vide qui lit. Je vis ce qui devait être, qui je serais. Et même comment je mourrais, avant que mes doigts soient formés. Et il y a un autre détail que l'oncle Martin omit dans ses cantos. Le jour où ils assassinèrent mon père sur les marches du temple du Gritch, dans la rue piétonnière lusienne, ma mère fut couverte de son sang, de l'ADN reconstruite, enrichie par le centre de John Keats. Ce qu'elle ne comprit pas vraiment sur le moment, c'est que ce sang était littéralement, à l'époque, la chose la plus précieuse de l'univers humain. Son ADN avait été conçu pour infester les autres de son unique don, l'accès au vide. Mêlé comme il faut à l'ADN totalement humain, il offre à la race humaine tout entière le don du sang qui ouvre le portail donnant sur le vide qui lit. Je suis ce mélange. J'apporte la capacité génétique du technocentre d'accéder au vide et la capacité humaine, trop rarement utilisée, de percevoir l'univers par l'entremise de l'empathie. Pour le meilleur et pour le pire, ceux qui boivent mon sang ne verront jamais le monde ou l'univers comme avant.
En disant cela, Aîné relève les genoux sur le tatami. Théo apporte un linge de lin blanc. Rachel verse du vin rouge dans 7 grandes coupes. Aîné sort un petit paquet de son polo, je reconnais un Medipack du vaisseau, et en tire une lancette stérile et un tampon d'antiseptique. Elle s'arrête avant d'utiliser la lancette et balaie la foule du regard. Il n'y a pas un bruit. On dirait que la centaine de personnes qui est là retient sa respiration.
Si vous me buvez ce soir, ce n'est pas une garantie de bonheur, de sagesse ou de longue vie,
dit-elle très doucement.
Il n'y a pas de nirvana. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a qu'une immense connaissance, du cœur autant que de l'esprit, des possibilités de grandes découvertes, de grandes aventures, et la garantie d'encore plus de douleur et de terreur que nos courtes vies n'en comptent déjà.
Elle regarde chaque visage à tour de rôle, sourit lorsqu'elle croise le regard du Dalaï Lama de 8 ans.
Certains d'entre vous ont assisté à toutes nos réunions de discussion depuis plus d'un an standard. Je vous ai dit ce que je sais sur la manière d'apprendre le langage des morts, le langage des vivants, d'apprendre à entendre la musique des sphères et à faire le premier pas.
Elle me regarde.
Certains d'entre vous n'ont entendu qu'une partie de ces discussions. Vous n'étiez pas là lorsque j'ai parlé de la vraie fonction du cruciforme de l'Église et de la véritable identité de Gritsch. Vous n'avez pas entendu en détail ce que représente l'apprentissage du langage des morts et les autres fardeaux attendant ceux qui entrent dans le vide qui lit. Ceux qui doutent ou qui hésitent, je les supplie d'attendre. Pour les autres, je redis que je ne suis pas un messie, mais quelqu'un qui enseigne. Si ce que je vous ai appris ces derniers mois sonne vrai, et si vous souhaitez tenter votre chance, buvez-moi ce soir. Faites attention. L'ADN qui permet de percevoir le vide qui lit ne peut pas coexister avec le cruciforme. Ce parasite se ratatinera et mourra en 24 heures si vous buvez mon sang. Il ne repoussera jamais en vous. Si vous cherchez la résurrection par le cruciforme, ne buvez pas le sang de mon corps qui sera dans ce vin. En outre, sachez que vous deviendrez, comme moi, l'ennemi méprisé et recherché de la Pax. Votre sang sera contagieux. Ceux avec qui vous le partagerez, ceux qui choisiront de découvrir le vide qui lit par l'intermédiaire de votre ADN partagé, seront à leur tour méprisés. Et pour finir, sachez qu'une fois que vous aurez bu ce vin, vos enfants naîtront avec la capacité de pénétrer dans le vide qui lit. Pour le meilleur ou pour le pire, vos enfants et leurs enfants à naître connaîtront le langage des morts, le langage des vivants, entendront la musique des sphères et sauront qu'ils peuvent faire un premier pas à travers le vide qui lit.
Aîné se touche le doigt avec le bord coupant de la lancette. On voit une minuscule goutte de sang à la lumière de la lanterne. Rachel lève un gobelet et la goutte de sang se mêle au vin. La jeune femme fait de même avec le suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 7 coupes soient contaminées, subissent une transsubstantiation. Mon esprit vacille. Mon cœur se met à battre la chamade. Cela ressemble à une parodie sauvage de la Sainte Communion de l'Église catholique. Ma jeune amie, ma chère amante, ma bien-aimée, est-elle devenue folle? Croit-elle vraiment qu'elle est le Messie? Non, elle a dit qu'elle ne l'était pas. Est-ce que je crois vraiment que je vais être transformé à jamais en buvant ce vin dont le millionième est le sang de ma bien-aimée? Je l'ignore. Je ne comprends pas. Environ la moitié des gens présents s'avancent un par un et boivent une gorgée à l'une des grandes coupes. Des calices? C'est un blasphème. Ce n'est pas bien. Ou... Une petite gorgée, c'est tout ce qu'ils prennent, puis retournent à leur place sur leur tatami. Personne ne semble particulièrement stimulé ou éclairé. Aucune corne de lumière ne brille sur le front de ceux qui communient au vin. Personne ne s'élève par lévitation ou ne se met à parler en langue. Ils boivent une petite gorgée et se rassoient. Je m'aperçois que je suis resté à ma place, dans l'espoir de croiser le regard d'aîné. J'ai tellement de questions à poser. Tardivement, et me sentant traître envers quelqu'un auquel je devrais me fier sans hésitation, je m'avance pour rejoindre la file qui se raccourcit. Aînée me voit. Elle lève brièvement la main, paume vers moi. La signification est claire. Pas maintenant, Roll. Pas encore. J'hésite encore, irrésolu, malade à l'idée que tous ces autres, ces étrangers, entrent en communion avec ma bien-aimée alors que je ne le peux pas. Puis, le cœur battant et le visage brûlant, je me rassois sur mon petit tapis. il n'y a pas de fin officielle à la soirée. Les gens commencent à partir par deux ou trois. Un couple, elle boit le vin, pas lui, part en se tenant par la taille comme si rien n'avait changé. Peut-être rien n'a-t-il changé. Peut-être le rituel de communion que je viens d'observer n'est-il que métaphore et symbolisme, ou autosuggestion et auto-hypnotisme. Peut-être ceux qui le voudront suffisamment fort pour percevoir quelque chose appelé le vide qui lie, auront-ils une expérience intérieure qui les convaincra que c'est arrivé. Peut-être tout cela n'est-il que connerie. Je me frotte le front. J'ai un tel mal de tête. Une bonne chose que je n'ai pas bu le vin, je pense. Il me donne parfois des migraines. Je me sens malade, vide, abandonné. Rachel dit «
N'oubliez pas, la dernière pierre du sentier sera mise en place demain à midi. Il y aura une petite fête sur la plateforme supérieure de méditation. Apportez vos propres boissons. »
Ainsi se termine la soirée. Je monte jusqu'à notre pagode avec un mélange d'allégresse, d'appréhension, de regret, de gêne, d'excitation et un fameux mal de tête. Je m'avoue à moi-même que je n'ai pas compris la moitié des explications d'Ainé et je pars avec une vague impression de déception et d'inconvenance. Je suis certain, par exemple, que la scène de Jésus ne s'est pas terminée par le rappel d'une petite fête sur carton d'invitation. Je ricane, puis ravale mon rire. La scène. Cette comparaison a un aspect terrible. Mon cœur recommence à battre la chamade et mon mal de tête empire. Ce n'est pas la forme optimale pour se présenter dans la chambre de sa bien-aimée. L'air glacé du passage menant à la plateforme supérieure m'éclaircit un peu les idées. L'oracle n'est qu'une lueur argentée au-dessus des cumulus qui montent à l'est. Les étoiles semblent froides ce soir. Je suis sur le point d'entrer dans notre chambre et d'allumer la lanterne quand, brusquement, les cieux explosent.